C'est 13. Qui c'est qui est monsieur 20 000 volts? Jacques, chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre la voie sur laquelle nous devons nous engager, la voie dans laquelle nous devons marcher. Tu es merveilleux parce que tu as pourvu, Seigneur, à notre bien ici-bas sur la terre, et tu nous as laissé tous les conseils utiles afin que notre cœur demeure constamment dans la paix et puisse trouver toujours auprès de toi le refuge dont nous avons besoin. Seigneur, je te prie de nous bénir et de nous aider pendant ce temps de méditation de ta parole, et que ton esprit grave ta parole dans nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Vous savez très certainement, frères et sœurs, que Jacques, qui est l'auteur de cette courte lettre, est le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sentons bien dans la manière dont il s'exprime et la manière dont il écrit qu'il y a une grande ressemblance avec son frère, le Seigneur. Dans ce sens que nous le voyons préoccupé d'une manière particulière pour autrui, pour ceux qui sont autour de lui, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin, en quelque sorte, du secours du Seigneur. Et j'ai remarqué une chose que vous avez peut-être aussi constatée, c'est que le premier chapitre se termine par une déclaration qui est très importante et qu'il va reprendre d'une manière différente dans ce chapitre que nous venons de lire. Voici comment il termine le premier chapitre. Il dit: si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Nous voyons donc qu'il a un intérêt particulier. D'abord pour que tous ceux qu'il aime et à qui il écrit puissent avoir leur langue sous contrôle et qu'ils puissent ainsi la maintenir comme en bride, sans tromper leur propre cœur. Et il ajoute que la religion véritable est quelque chose de pratique. Ce n'est pas une théorie, mais c'est quelque chose qui fait de nous, non pas des spectateurs, mais des hommes et des femmes qui se lancent dans une pratique de la foi qui a des conséquences heureuses, déjà pour nous, d'abord personnellement, et puis ensuite pour notre entourage. Et à la fin donc de sa lettre, au chapitre 5, j'ai commencé à lire avec vous à partir du verset 13, mais il reprend presque le même enseignement, et au verset 12, il dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. » Ce qui veut dire qu'il souligne encore une fois que la langue ne doit pas être le moyen, eh bien, d'être en contradiction avec ce que nous vivons. Et puis, maintenant, il s'occupe de la religion pratique, des intérêts des uns et des autres, et nous montre comment nous-mêmes, eh bien, nous devons agir dans ce domaine. Vous voyez, il y a la religion qui est composée d'hommes et de femmes qui la pratiquent comme des spectateurs. C'est-à-dire, ils voient, ils entendent, mais en réalité, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont entendu ou même ce qu'ils croient, mais cela reste une théorie sans aucune efficacité, ni pour eux, ni pour leurs semblables. Mais il y a une autre pratique de la religion qui n'a pas ce côté spectaculaire et qui, quelquefois, dans le privé, eh bien, se déroule, se manifeste dans un amour véritable qui prouve que l'amour que nous avons pour Dieu se concrétise aussi auprès de ceux qui nous entourent et pour lesquels nous découvrons certaines choses qui ne sont ni à la gloire de Dieu ou alors peut-être qui sont pour eux une occasion de douleur, une occasion de souffrance. Et la parole de Dieu nous demande d'intervenir et d'agir en conséquence. Et voilà donc comment, dans ce passage que nous avons lu, Jacques commence par dire « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Alors la souffrance, ce n'est pas seulement dans le domaine physique. La souffrance peut être aussi au niveau de notre esprit, dans notre cœur. Il peut y avoir toutes sortes d'afflictions. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nous pouvons être plongés parfois dans des moments de souffrance. Et quand nous sommes dans ces moments de souffrance, alors il y a une solution qui semble être très facile et qui est très simple. Et il nous dit, si quelqu'un se trouve dans cette situation-là, eh bien, qu'il prie. Vous pourriez dire, mais ça semble enfantin, ça semble même simpliste, mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il est en train là d'opposer une conviction profonde qu'il a dans son cœur et que nous devrions aussi avoir dans notre propre cœur avec les pratiques qui sont le partage de ceux qui ne connaissent pas Dieu autour de nous, de ceux qui nous entourent et qui eux aussi sont appelés à traverser des moments de souffrance. Alors, que font les gens du monde lorsqu'ils sont face à certaines circonstances qui les font souffrir, qui mettent la peine dans leur cœur? Eh bien, il y en a qui se replient sur eux-mêmes, ils sombrent dans un défaitisme vraiment qui les conduisent presque à la dépression. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui réagissent d'une manière stoïque, mais c'est avec la force de leur propre cœur, de leur propre volonté, et ils veulent, avec un flegme stoïcien, faire face à certaines situations. Et il y en a d'autres, Par exemple, nous trouvons cela dans le livre de Jonas, lorsque les marins qui l'accompagnaient se sont trouvés dans le malheur. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué toutes sortes de dieux selon leur peuplade, leur nationalité. Ils avaient des dieux différents et ils le faisaient un peu comme quand, je dirais, on invoque comme ça par hasard en disant si ça ne nous fait pas de bien, ça ne peut pas nous faire de mal, sans aucune conviction. Cela veut dire que peut-être parfois aussi nous nous adressons à Dieu de cette manière-là, sans bien réfléchir à ce que nous lui demandons, sans bien penser la prière que nous lui adressons. Mais j'aimerais ici vous dire une chose. Quand il dit « si quelqu'un souffre, qu'il prie », en fait, la véritable traduction devrait être qu'il continue à prier. Ça veut dire qu'il ne doit pas s'arrêter de prier. Parce qu'il arrive parfois que lorsqu'on est dans un moment très difficile, et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez dû passer par de tels moments, eh bien, on est comme décontenancé et notre prière a tendance à s'affaiblir. Même peut-être en entendant cette expression « qu'il prie », vous vous dites « mais oui, je sais qu'il faut le faire ». Le problème, c'est que lorsque je suis dans la souffrance, eh bien, il y a en moi toutes sortes de choses qui viennent et qui évacuent la véritable prière que je devrais faire avec conviction. Et ça, chacun d'entre nous, nous avons dû en faire l'expérience. Alors, nous nous livrons aux larmes et au désespoir. Mais encore ici, je voudrais vous dire qu'il y a des larmes qui, aux yeux de l'Éternel, comptent autant qu'une prière. Il y a des versets dans l'Écriture, notamment dans le psaume 6 et à partir du verset 7, où David s'exprime en ces termes et il dit « jour et nuit ». Je verse des larmes. Et dans le psaume 30 et au verset 6, ou à partir du verset 6, je voudrais le lire pour ne pas me tromper, il est dit ceci, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir, écoutez bien, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Écoutez bien, ma montagne. La montagne, c'est toujours dans la parole de Dieu, eh bien, le symbole de quelque chose qui se dresse devant nous et qui est une difficulté qui nous paraît insurmontable. Et ici, eh bien, l'auteur de ce passage dit « Tu as affermi cela devant moi, tu as caché ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. » Éternel, secours-moi. Voyez, on voit là, eh bien, une prière qui sort vraiment du cœur, qui jaillit du cœur. Et il y a des moments où Dieu attend que nous puissions nous exprimer de cette manière-là. Non pas d'une manière routinière, non pas d'une manière qui ressemble à un devoir que l'on accomplit et qui est, je dirais, presque sans âme, mais vraiment que cela représente le cri, peut-être sourd, parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Quand le psalmiste dit qu'il crie à l'Éternel, peut-être l'a-t-il fait par le moyen de sa voix, mais en fait, ce qu'il veut souligner, c'est que c'est le cœur qui n'en peut plus et qui crie à Dieu, mais avec la certitude qu'il est un refuge et qu'il est celui qui va répondre. Et c'est une chose certaine, que dans toutes nos souffrances, quelle qu'elle soit, la prière reste pour nous le moyen de trouver une paix profonde et de surmonter, je dirais, eh bien, ces moments, peut-être même de dépression, qui peuvent être notre partage. J'aimerais simplement vous dire, la prière, elle est quand même appropriée en toutes circonstances, qu'elle soit heureuse ou pas. Mais nous devons reconnaître que son habitat naturel, c'est dans l'arène de la souffrance. C'est là que nous sommes le plus poussés, le plus prompts à aller vers Dieu et à crier vers lui. Nous voyons même que le Seigneur a connu des moments semblables. Quand il était à Gethsémané, eh bien, nous savons, pour l'avoir lu dans les évangiles, qu'il a élevé son âme vers le Seigneur, et il l'a fait avec cris, et il l'a fait avec des larmes, il l'a fait dans une certaine agonie. Ça peut être le partage du chrétien, de connaître ces moments-là, une certaine agonie, mais nous savons que c'était là le chemin de Dieu, et que de toute façon, eh bien, il y a eu un exaucement, et heureusement, parce que quand il a connu cela, c'était en faveur de chacun d'entre nous, et il a triomphé parfaitement. Satan voulait le détruire, il voulait anéantir le plan de Dieu. Savez-vous pourquoi? Il est dit que c'est avec larmes et avec des cris qu'il a demandé à Dieu de le délivrer de la mort. Moi, je me suis souvent posé la question, et je me suis dit, mais le délivrer de la mort, pourquoi l'a-t-il demandé? Puisque, en fait, il était venu pour cela. Le plan de Dieu, quand il est apparu ici-bas sur la terre, je dirais, c'est que il est né pour mourir. C'était le chemin, le plan rédempteur de l'Éternel. Comment pouvait-il demander cela à Dieu? Ah, attention, il ne voulait pas mourir de cette manière qui semblait presque être en train d'intervenir, puisque la Bible dit que des grumeaux de sang tombaient de son front jusqu'à terre. S'il y a un médecin parmi nous, et je sais qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a un ici ce soir, mais on sait très bien que lorsqu'on en arrive à ce stade-là, on est vraiment en danger de mort. Et finalement, c'est ce que voulait Satan, qu'il meure de cette manière-là, d'une mort, qui aurait pu passer comme naturelle. Mais Jésus n'est pas venu pour mourir de cette manière-là. Il fallait qu'il se charge de nos péchés, de nos iniquités, de nos maladies, de notre souffrance, et qu'il en paye le prix sur la croix. Et lui-même a dit, personne ne m'ôte la vie, même pas le diable, mais c'est moi, de moi-même, qui la donne. Et il la donne en rançon pour nos âmes. Ce que je voulais souligner, c'est que Jésus a connu cette agonie, il a connu cette souffrance, et la solution, elle a été dans la prière. Il y a des moments où nous prions, et cela ne nous coûte pas très cher. Il y a des moments où nous prions, mais c'est une véritable agonie. Et je dois remarquer que tous les hommes de la Bible et aussi des femmes de la Bible qui ont intercédé, crié à Dieu dans des moments de souffrance extrême, je pense en tant que femme à la maman de Samuel, Anne, je pense en tant qu'homme à David dans les circonstances que nous venons de découvrir dans les psaumes, ou Élie dans d'autres circonstances à cause de la situation du peuple et de l'idolâtrie du peuple. Ils ont crié, ils ont agonisé, ils ont persévéré, mais le résultat a toujours été le même. Dieu a répondu. Alors il faut que nous sachions que Dieu, qui ne change pas, est capable de le faire pour nous aussi et de nous accorder la délivrance de la souffrance en nous apportant une paix inexplicable. Il y a des fois où nous ne pouvons pas expliquer la raison pour laquelle nous sommes dans une paix parfaite. Je me souviens d'avoir rencontré un jour une personne qui venait de traverser le deuil et qui me disait, je ne comprends pas, elle avait perdu son époux, elle disait, je ne comprends pas, je devrais être désespérée, j'ai connu un moment d'angoisse terrible et maintenant je voudrais verser des larmes, mais je ne peux pas parce que Dieu a mis une paix infinie dans mon cœur. Alors je lui ai dit, pourquoi voulez-vous verser des larmes? Quand Dieu apporte ainsi une réponse, eh bien, vous savez, la meilleure chose à faire, c'est de lui dire merci Seigneur. C'est de lui rendre grâce et de le louer. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie de cette manière-là. Si quelqu'un est dans la joie, ah, je disais que nous devons, dans toutes les circonstances, eh bien, prier le Seigneur. Avez-vous remarqué que quand tout va bien, nous avons tendance aussi à nous relâcher. Si nous avons tout ce qu'il nous faut, eh bien, nous ne sentons pas le besoin de rechercher le Seigneur. Et c'est la raison aussi pour laquelle Jacques dit ici, si tu es dans la joie, bien, manifeste-le aussi en chantant des cantiques, des hymnes spirituels. Manifeste-le, il faut que cela soit audible, que cela soit véritable, réel, la joie. Elle peut être manifeste pour tous ceux aussi qui nous entourent. Attention, frères et sœurs, la joie que Dieu donne, c'est une joie intime, pure, profonde, mais qui peut être vue de ceux aussi qui nous regardent vivre. Parce que quand quelqu'un est dans la joie, ce n'est pas forcément quelqu'un qui affiche un sourire semblable à ce que l'on appelle la banane, n'est-ce pas, qui va d'une oreille à l'autre. Non, ce n'est pas forcément cela. C'est là, dans le cœur, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui nous empêche, même lorsque nous sommes seuls, de chanter vraiment au Seigneur? Je vais vous dire que c'est un moyen vraiment de retrouver aussi un dynamisme formidable dans le domaine de la foi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre monde a changé terriblement. Je vais vous parler non pas d'une manière nostalgique, mais moi je me souviens d'avoir été dans un village dans ma tendre enfance, où, vous savez, il y avait beaucoup, je dirais, de gens vivant dans les milieux ruraux, avec évidemment tout ce qui caractérise le travail de ces personnes-là. Et je me souviens que dans la rue où j'habitais, il y avait un forgeron, un charron, c'est-à-dire qu'il faisait le cerclage des roues avec des barres métalliques qu'il faisait passer au feu. Et je passais de nombreux moments là auprès de lui dans cette forge parce que j'étais intéressé par le travail qu'il faisait. Mais ce qui m'a marqué, c'est que cet homme, avec le dur travail qu'il faisait, il était toujours en train de chanter. Et j'ai remarqué, en passant dans cette même rue, que souvent les femmes, en faisant le ménage, la fenêtre ouverte, on les entendait chanter. Aujourd'hui, on n'entend plus les gens chanter. On entend la télé, on entend le poste radio, on entend, vous savez, les petites machines là que l'on a à la main avec ce qu'il y a dans les oreilles, mais les gens ne chantent pas. C'est quelque chose qui est devenu artificiel. Bon, mais ça, c'est le monde. Mais j'ai remarqué que les chrétiens aussi ont perdu cette joie de chanter, souvent. Et dans les familles, on ne le voit pas, on ne le trouve pas. Il y a des personnes qui passent des journées entières sans chanter, ne serait-ce que dans leur cœur. Dans le cœur, c'est pas difficile, hein, mais quand même, il y en a un qui entend tout ce qui se passe dans le cœur. Vous savez, des fois, je vais vous dire quelque chose, c'est un secret de famille, vous ne le direz pas à ma femme, hein. Non, vous ne le direz pas. Mais je sais que des fois je la vois en train de chanter en faisant certaines choses, et puis des fois elle me parle et dit, Mais à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu es en train... Je remue les lèvres, il n'y a aucun son qui sort, mais là-dedans, eh bien, ça vibre. Il y a quelque chose qui s'élève vers le Seigneur. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous disons toujours que le chrétien, c'est un être joyeux. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, le monde s'est constitué une sorte de mythologie, et le désir du monde non-croyant, eh bien, c'est que la vie chrétienne est une vie triste. Peut-être que certains chrétiens ont donné un petit peu ce témoignage extérieur que le christianisme, c'est triste. C'est quelque chose où il faut toujours avoir une certaine contenance. C'est vrai qu'il y a aussi l'autre extrême, l'extravagance. Et nous savons très bien qu'on en est même arrivé, n'est-ce pas, à créer une sorte de dénomination avec ce titre « extravagance ». Mais entre ces deux extrêmes-là, il y a un juste milieu. Quand le Seigneur règne dans le cœur et que vraiment nous n'avons aucune raison de nous plaindre, eh bien nous pouvons le manifester aussi par des chants. Écoutez ce que dira Paul dans cette lettre qu'il adresse aux chrétiens de Colosse. Vous voyez, il dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure se trouve donc très bien confirmé dans l'Écriture. Et ça devrait être le partage de tout chrétien qui a une relation normale avec le Seigneur. Il y a des moments de souffrance, il prie. Il y a des moments de joie, il doit chanter. Cela doit être manifeste. Cela peut se manifester aussi dans le cadre d'une réunion comme celle-là. Et nous devrions pouvoir chanter de tout notre cœur pour que non seulement Dieu lui-même soit honoré et glorifié, mais que ce soit aussi un témoignage pour quelqu'un peut-être qui vient au milieu de nous et qui, en entendant les chants, peut goûter à cette joie du véritable christianisme. Et puis, je pense maintenant à cette dernière, disons, étape, mais juste avant de parler de la maladie, j'aimerais vous dire que le verbe qui dit ici qu'il chante, le mot plutôt qui se trouve dans le texte original, c'est psaléto, et ça veut dire tout simplement chanter des louanges. Alors, nous pouvons louer le Seigneur, mais quand nous chantons, il faut que nous soyons conscients que ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce que nous devons le faire. Vous voyez, la réunion commence toujours par des chants, et JP est là pour nous conduire dans les chants. Mais quand il le fait, nous devons prendre nous aussi conscience que nous devons chanter de tout notre cœur. C'est comme si nous faisions monter vers Dieu un psaume de louange, un chant de louange à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai remarqué pour moi-même tout d'abord. Des fois, je ne pense pas toujours aux paroles que je fais monter vers Dieu au travers de mes chants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais parfois, je m'arrête à considérer le cantique. J'ai dit, bien, voyons, prêtons attention à ce que l'on est en train de chanter. Parce que finalement, on ne chante pas pour passer un moment. On chante pour Dieu. Alors il faut bien que je pense, quand je chante, que je m'adresse à Dieu. Et je ne veux pas adresser à Dieu n'importe quoi, avec un cœur qui n'est pas bien disposé, mais vraiment bien conscient que je m'adresse à lui. Et que quand dans la parole du cantique, il y a quelque chose d'important, comme par exemple ce soir, je marcherai par la foi, ça m'oblige à me poser des questions. Et comme la parole de Dieu me le demande, éprouve-toi toi-même et exerce la foi. Et puis, est-ce que tu es vraiment dans la foi? dans la circonstance que tu traverses? Est-ce vraiment dans la foi? Est-ce que je chante, je marcherai par la foi parce que il faut que je le chante, c'est le cantique, ce sont les paroles, et je m'unis aux autres. Mais il faut que je pense à cela. Je marcherai par la foi. Par la foi, je triompherai. Vous vous rendez compte? Si nous le disons avec vérité, puis on va repartir ce soir en disant, mon problème, il est résolu. Même si je ne le vois pas, de mes yeux. Mais Dieu, il a pris en compte ce que j'ai dit, et ce que je crois, et en son temps, je verrai la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, si tu crois, ça c'est le présent, tu verras, ça c'est le futur, la gloire de Dieu. Et donc, nous devons garder cela précieusement dans notre cœur. J'en arrive donc ici à cette autre question. Quelqu'un est-il parmi vous malade? Qu'il l'appelle les anciens de l'Église. Je ne connais pas, frères et sœurs, de texte qui a été plus mal interprété que celui-là par différentes dénominations. Je vous assure que c'est un véritable problème. Par exemple, je peux mettre en relief dans un premier temps que l'Église catholique, le catholicisme romain, lui a fait enseigner au travers de ce verset le soi-disant sacrement de l'extrême onction. Vous avez tous entendu parler de cela. Or, c'est tout à fait à l'opposé du sens que Jacques voulait donner, puisque le but, c'est quand même la délivrance du captif, la guérison du malade, et non pas justement faire un sacrement parce qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on pense simplement à la mort. Et c'est vrai pour nous tous, nous le savons, peut-être pour avoir entendu des témoignages dans ce domaine, ou peut-être même pour avoir vécu dans le cadre familial des choses semblables. Des fois, une personne peut être réduite à l'extrémité, et puis Dieu intervient d'une façon miraculeuse. Je vais vous dire, puisque je vous entends souvent prier ici pour le frère Bouchami et pour les moments difficiles qu'il traverse. Je l'ai visité il y a quelques jours, passé du temps avec lui, et j'ai remarqué pendant plusieurs minutes, il m'a raconté son expérience. Vous savez, quand il a traversé cette terrible maladie qui lui ravageait le pancréas. Ce qui était pour même les docteurs inexplicable, parce que les docteurs savent que c'est cet organe qui ne se reconstitue pas. Le foie peut se reconstituer, le pancréas non. Et il était donc dans un état réduit à l'extrémité, même pour tout vous dire. Je ne sais pas, et je ne crois pas trahir un secret, il a connu une sorte de mort clinique, et le chirurgien qui est intervenu a été vraiment très touché de voir comment Dieu a pu le relever. Tous autour pensaient qu'il était mort. Il m'a dit, même des collègues sont venus, et quand j'ai été relevé par le Seigneur, ils m'ont confessé qu'ils étaient auprès de moi. Moi, j'en étais même pas conscient à ce moment-là. Il était déjà un petit peu parti. Et ses collègues lui ont dit, mais pour nous, tu étais mort, c'était fini. Sauf que, vous voyez, pour Dieu, tout est possible. Et Dieu l'a relevé. Ça, c'est un cas concret. Nous voyons comment le Seigneur a pu faire une chose extraordinaire. Mais j'ai parlé du catholicisme romain, mais vous savez, pour les calvinistes, comme pour les chrétiens de persuasion, je dirais réformés, eh bien, Ils pensent que ça, c'était une pratique qui était simplement réservée au temps apostolique, mais que depuis ce temps apostolique, eh bien, les miracles, ça n'existe plus, ça ne se, ce n'est plus la peine d'attendre ni de prier pour les malades. Ça dépend de la volonté de Dieu. Un point, c'est tout. Et ils disent comme cela que c'est un temps révolu. Mais, chers frères et sœurs, nous n'avons pas à pencher ni dans un sens, ni dans un autre, mais tout simplement à nous appuyer sur cette parole simple, où il est dit qu'il appelle les anciens de l'Église. Qui sont les anciens de l'Église? Évidemment, nous en avons juste parlé un peu en effleurant le sujet. Il faudra bien qu'on s'y attarde plus longuement dans d'autres circonstances. Mais les anciens de l'Église, ce sont ceux qui sont désignés, par exemple, comme Paul lui-même en parle dans l'épître à Timothée, en mettant en relief les qualités qui sont les leurs, entre autres, capables d'enseigner, mais aussi avec une certaine moralité. Je dirais aussi avec une certaine manière de vivre, autant sur le plan familial, comme vous le savez aussi bien que moi, que le témoignage extérieur auprès de ce monde. Ce sont ces personnes qui ont été désignées par l'Église ou par le pasteur, selon les cas, selon nous le voyons dans l'Écriture. Mais une chose est certaine, ce sont des hommes de confiance qui sont en relation avec Dieu. Et il dit que le malade les appelle. Et là, je dois vous dire que le pentecôtisme a fait une certaine erreur. Je crois faire partie du mouvement de Pentecôte. Mais regardez comment le pentecôtisme a dépassé certaines limites. Peut-être avez-vous vécu cela, avez-vous connu cela? Moi, je l'ai connu. Et on a fait ces fameuses réunions que l'on appelait des cultes de guérison. Et d'une manière qui, pour moi, me semble paradoxale, eh bien, même à l'occasion d'un culte où ensemble, on prend la Sainte Cène, et notez bien, l'Écriture dit que le pain que nous mangeons, c'est le pain des forts, que la coupe que nous élevons, c'est la coupe des délivrances. Et bien souvent, c'est à l'occasion d'un culte comme cela qu'il a été pratiqué ce que l'on appelle, eh bien, la guérison divine, en faisant appel aux chrétiens qu'ils se lèvent pour faire une séance d'onction d'huile pendant le culte. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, si je viens au culte, je m'approche de la table du Seigneur, je suis conscient que je prends le pain des forts et la coupe des délivrances. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, plus d'une fois, j'ai reçu le témoignage de chrétiens qui, en prenant la Sainte Cène dans la plénitude de la foi, après s'être examinés devant le Seigneur, sans que même personne n'ait intervenu auprès d'eux, ont saisi une victoire totale, complète, et ont été guéris sans avoir besoin de l'onction d'huile. Pourquoi faire une double fonction de quelque chose qui, à mon sens, doit se produire en dehors du cadre d'un culte, peut-être à la rigueur dans une réunion comme celle-ci, à une réunion de prière, ou alors tout simplement à la maison. Avez-vous remarqué ce qu'il est dit? Qu'il appelle. Ce qui veut dire donc que le malade, il est dans une incapacité même de se déplacer, peut-être réduit à une extrême limite sur le plan physique. Alors, il fait appel. Là encore, je me permets d'ouvrir une parenthèse et vous dire, frères et sœurs, nous n'avons pas à cacher nos moments de souffrance, de maladie. C'est bien quand l'Église peut être mise au courant de ces moments-là. Des fois, nous avons un certain scrupule. Et nous ne voulons pas parler. J'ai visité avec mon épouse, il y a quelques jours, une personne qui a été amenée à l'hôpital. Nous l'ignorions complètement. Et nous avons été appelés après qu'il soit rendu à la maison. Et nous lui avons dit, mais pourquoi ne nous avez-vous pas appelés? Bon, je pense que c'était un concours de circonstances particulières. Mais mes frères et sœurs, des fois, il y a ce scrupule. On dit, ah, mais on ne va pas déranger les serviteurs de Dieu. Écoutez, n'ayez aucune crainte dans ce domaine-là, parce que si un serviteur de Dieu est dérangé, parce qu'on l'appelle pour prier, c'est que je me demande s'il est à sa place en tant que serviteur de Dieu, vous comprenez? Parce que nous, c'est notre devoir et notre responsabilité. C'est vrai en même temps que la parole de Dieu déclare que les serviteurs de Dieu sont aussi appelés anciens. Vous connaissez cette déclaration faite par Pierre, quand il dit à un moment donné, « Moi, ancien comme eux, nous sommes donc des anciens. » Et il peut y avoir là, dans, je dirais, cette unité dans la foi et en obéissant à la parole de Dieu, une action formidable. Mais il y a quelque chose qui peut-être nous échappe dans ce texte. Voyez, l'accent n'est pas seulement mis sur la guérison comme si c'était obligatoirement quelque chose d'automatique qui doit être réalisé, qui doit être accompli. Il est dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile, je vais parler de l'huile juste un instant tout à l'heure, au nom du Seigneur, la prière de la foi, écoutez bien, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il vous plaît, soulignez dans votre Bible, sauvera le malade. Cette expression-là se trouve dans d'autres textes dans l'Écriture, et notamment dans les Évangiles. Et ce terme qui est traduit par ici « sauver », eh bien, veut dire dans les Évangiles d'autres choses que le salut, par exemple, de l'âme. Ça peut être la guérison du corps, mais ça peut être aussi d'autres choses que la guérison du corps. Par exemple, je découvre dans plusieurs versets de l'Écriture que, par exemple, il est dit que Jésus a parlé à ce lépreux qui était venu vers lui et qui l'a guéri et il lui a dit « ta foi t'a sauvé ». Il y a la fameuse femme qui est venue et qui a touché le bord du vêtement et qui a été aussi guérie, délivrée d'une manière formidable. Jésus lui a dit aussi, ta foi t'a sauvé. D'autres fois, il a chassé les démons. Et là, il a parlé de la même façon. La foi avait sauvé. C'est le papa qui priait pour son fils lunatique qui s'était jeté dans l'eau et dans le feu. Et Jésus a utilisé exactement la même expression. Il y a cette expression qui veut dire sortir, sortir d'une situation difficile, quelle qu'elle soit. Si je pense à la guérison automatique, systématique, alors je dois vous dire, il y a une contradiction dans l'Écriture. Parce que il y a des versets de la parole de Dieu qui sont une promesse générale, mais qui sont quand même aussi liés à certaines conditions. Par exemple, la parole de Dieu dit que si nous prions le Seigneur, eh bien, il entendra et il répondra, mais il va répondre. Mais il se réserve le droit de dire oui ou de dire non. Et ça, c'est une réponse de Dieu. Quand il dit non, c'est une réponse de Dieu. C'est un exaucement à la prière. Pourquoi, par exemple, un homme comme l'apôtre Paul lui-même a été obligé d'écrire dans une certaine circonstance et il dit « J'ai laissé Trophime, malade, à Milet. » Lui, qui avait eu l'occasion de voir tant et tant de malades être guéris, lui-même, qui certainement a dû pratiquer l'onction d'huile pour les malades, comme tous les apôtres ont dû le faire. C'était une pratique générale, c'est la raison pour laquelle ici Jacques en parle dans sa lettre. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il sait très bien que la souveraineté de Dieu passe par-dessus tout. Et nous ne sommes pas là pour imposer à Dieu certaines choses, mais tout simplement pour nous soumettre à sa volonté. Et quand il dit non, nous pouvons être sauvés, sauvés d'une sorte d'amertume, de ressentiment, de pesanteur, de lourdeur spirituelle, qui fait que parce que nous n'obtenons pas ce que nous désirons à tout prix, alors nous sommes dans une sorte de révolte sourde, mais qui est caché là dans le fond du cœur. Mes frères et sœurs, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu est très importante. Maintenant, j'en viens quand même à cela, mais quand même la Bible parle d'oindre le malade d'huile. Pourquoi l'huile? Là encore, il y a eu différentes interprétations. Et certains ont dit, ben oui, mais c'est connu dans l'Ancien Testament. Eh bien, on voit que des fois, on a utilisé l'huile d'olive, qui était justement pris des fois comme une forme de médecine. Mais ça n'a aucun rapport avec ce texte-là. Par contre, nous voyons que dans l'Ancien Testament, on utilisait certains moyens. Nous avons vu dans certains livres, le livre des rois, me semble-t-il, quelqu'un à qui, par la bouche du prophète Ésaïe, il a été dit d'appliquer sur ses ulcères une masse de figues sèches. Et c'est certainement pas la masse de figues sèches qui l'a guéri, c'est Dieu. Mais c'était un moyen qui avait été utilisé. Or, écoutez bien, mes frères et sœurs, l'huile, là, dans Jacques, c'est le symbole de la plénitude de la grâce. Rappelez-vous de ce fameux psaume 133, où il dit, comme il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe et puis sur ses vêtements, jusqu'au bord des vêtements. C'est justement en touchant le bord du vêtement du Seigneur que la femme atteinte d'une perte de sang a été guérie, a été délivrée. En quelque sorte, nous sommes, nous, le bord du vêtement. L'Église, c'est le corps de Christ. Et nous sommes les personnes qui vivons dans les derniers instants, je dirais, de l'ère de la grâce. Mais la parole de Dieu reste toujours la même. Ce qui est important, donc, mes frères et sœurs, c'est pas l'huile, mais ce qu'elle représente, le symbole, la plénitude de la grâce. Et dans la grâce de Dieu, il y a la possibilité d'une guérison, d'une délivrance. C'est vrai. Et nous devons réellement tenir compte de cet enseignement-là, mais en même temps, pardonnez-moi d'être un peu long ce soir, mais je sentais le besoin de vous parler de cela. En même temps, avez-vous remarqué, jamais Jacques ne condamne ou accuse les chrétiens qui sont malades en leur faisant croire que s'ils sont malades, c'est qu'il y a un péché caché quelque part dans leur vie, ou alors les culpabilisant pour d'autres raisons, peut-être. Quelques-uns pensent, mais s'ils sont malades, c'est qu'ils sont sortis du cadre de la volonté de Dieu. Qui est-ce qui nous permet de dire cela? Alors, certains utilisent des passages qui se trouvent dans les évangiles, où il est dit que Jésus, avant de guérir quelqu'un, a dit « tes péchés sont pardonnés ». C'est le cas du paralytique, vous vous en souvenez? Celui qu'ils ont amené aux pieds du Seigneur, les amis, et quand en découvrant le toit, ils ont fait descendre ce paralytique au pied du Seigneur, la première chose que Jésus a dite, c'est pas « sois guéri », mais il lui a dit « tes péchés sont pardonnés ». C'est après seulement qu'il a étendu sa main sur lui pour qu'il soit guéri et délivré. Alors, c'est vrai, il y a eu des cas où la maladie était la conséquence d'un péché direct. J'ouvre une parenthèse, je vais vite la refermer. Bois tant que tu veux de l'alcool et tu attraperas une cirrhose. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. Il y a des conséquences de certains péchés dans notre vie. Là, c'est un exemple que j'ai donné. Mais si vous faites attention, il y a très peu d'exemples dans la parole de Dieu où il est question de péchés liés à la maladie. Et nous ne devons pas tomber dans le travers des amis de Job qui, par tous les moyens, essayer de dire à Job, mais il n'y a rien à faire, si tu es dans la peine, si tu es dans la souffrance, si tu es malade, c'est qu'il y a quelque chose de caché dans ta vie. Non, non, non. D'ailleurs, vous savez comment au chapitre 42, Dieu a repris sévèrement les amis de Job, en demandant même à Job de prier pour eux. Donc, vous voyez, c'est une erreur de penser toujours que la maladie, eh bien, elle est liée à un péché ou que l'on est sorti du cadre de la volonté de Dieu. Si vous me permettez, je vais vous dire tout ce qui me caractérise. Vous avez devant vous presque un Robocop. Vous avez une personne avec une arthroscopie à genou droit, une hanche, une prothèse à la hanche gauche. Vous avez quelqu'un qui a subi un triple pontage. Il y a une pile ici qui marche quand elle veut. Il y a des lunettes pour y voir un peu plus clair. Il y a un appareil dentaire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses artificielles. Certainement que je suis en dehors de la volonté de Dieu. Hein. Je suis complètement, complètement à côté de la plaque. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Non, non, non. Il faut que nous pensions. Dieu ne parle pas pour rien dire. Et c'est vrai qu'en utilisant ces moyens-là, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Nous devons retrouver la voie de l'obéissance. Mais en même temps, il faut que nous nous mettions à l'abri de toutes les stupidités qui gagnent le cœur de l'être humain quand il oublie de considérer que Dieu est souverain. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle, même quand nous accomplissons tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, il ne faut jamais oublier de rester humblement, humblement reconnaissant au Seigneur et dépendant de lui. Quand on est malade ou en dehors de la maladie, on est dans ses mains. Et quand on lui fait confiance, eh bien, il peut nous faire voir, après un certain laps de temps, que toutes les choses qui nous arrivent peuvent se transformer en bénédiction, parce que je le répète encore une fois, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Néanmoins, et en terminant, n'oublions pas qu'il y a la possibilité de avoir besoin de confesser ses péchés. Encore une fois, attention mes frères et sœurs, le catholicisme romain a fait cette fameuse confession auriculaire. Nous n'avons pas besoin de cela, parce que la parole de Dieu condamne cela. Et nous n'avons pas non plus à passer à l'autre extrême. Attention aux réunions où, il y a une sorte, de mise à jour de certaines choses publiquement. Vous savez, ces fameuses confessions qui se font comme cela, qui n'ont pour résultat qu'un tapage et qui, dans le fond, ne sont pas non plus à la gloire du Seigneur. Mais par contre, nous, chacun d'entre nous, nous pouvons savoir, dans nos relations personnelles, quand il y a quelque chose avec un frère ou avec une sœur, comment nous devons régler cela? Comment le faire? En étant conscient que Dieu voit toutes choses. Et c'est la raison pour laquelle il est dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Ça peut se faire d'une manière très discrète, mais en même temps, très authentique pour régler certaines choses sans amertume, sans absolument aucune agressivité non plus, mais absolument nécessaire parce que Dieu voit tout. Nous avons besoin d'être fermes sur certaines choses et ne jamais tolérer quoi que ce soit qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais d'autres fois, nous avons besoin de nous parler réciproquement, en tête à tête, et dans le plus grand des secrets. Mais vous savez que quand on est deux, il y a toujours un qui est là et qui voit tout, c'est le Seigneur. Et quand tout se règle de cette manière-là, alors ça devient une réelle bénédiction pour l'Église. Que Dieu nous aide à comprendre. Je reviendrai là-dessus certainement d'autres fois. Nous pouvons